suite, on va parler de la flambée des prix de l'énergie, notamment l'essence, le gasoil. Nous sommes désormais à un niveau historiquement haut depuis 2018 et les Français sont une nouvelle fois pris au piège de cette hausse brutale des tarifs. Reportage à Lille de Damien Deparnay et Sébastien Boué.
Romuald est ouvrier pour un équipementier automobile. Chaque jour, il n'a d'autre choix que d'utiliser sa voiture pour aller au travail.
Tous les jours, je suis obligé de faire une quarantaine de kilomètres juste pour aller au boulot, quoi. Donc, on est obligé de prendre la voiture. J'ai aucune autre possibilité, quoi.
Cet ancien gilet jaune s'inquiète donc de la flambée des prix de l'essence ces derniers jours et se dit prêt à manifester de nouveau pour réclamer une baisse des taxes sur les carburants.
Il faudrait vraiment qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour le baisser, parce que ça devient c'est beaucoup trop, quoi. Il faut qu'il fasse un geste. Sinon, ça va bouger, quoi. C'est pas possible de rester comme ça à 51, quoi.
1,51€, c'est le tarif du litre de gasoil à cette pompe, mais dans certaines stations-service de la région, il a voisine 1,70€ et jusqu'à 1,90€ pour le sans-plomb.
Si on n'a pas d'argent, on ne peut plus sortir, on ne peut plus mettre d'essence dans sa voiture. Ça devient un luxe. Mais enfin, aller travailler, ça malheureusement, ce n'est pas un luxe. On est bien obligé.
La voiture, c'est devenu essentiel de nos jours. On ne peut plus vraiment compter sur le bus ou quoi que ce soit en rapport aux horaires.
Avant, franchement, je payais vachement moins cher et ça rentrait dans mon budget. Maintenant, je mets des pleins presque 3 fois par mois et franchement, c'est compliqué.
Et avec les prix du pétrole qui continuent de grimper, le prix des carburants devrait encore augmenter dans les prochaines semaines.
Voilà, la hausse des prix du carburant et les prix de l'énergie, on en débat ce soir dans Punchline. C'est parti.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On parle des prix du carburant, de l'explosion des prix de l'énergie. Céline Pina, on a entendu ces personnes qui viennent de Lille, qui sont à Lille, évoquer le spectre des gilets jaunes, dire on ne s'en sort pas. Si ça continue comme ça, il faudra à nouveau manifester. Vous croyez à un retour des gilets jaunes ?
Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le problème est réel. Et ce que dit la jeune femme ou ce que dit le monsieur, il y a dans certains endroits, notamment dans la France périphérique, on n'a pas d'autre choix, on fait tout en voiture. Il n'y a quasiment pas de transport en commun. Les services de bus qui restent sont des services scolaires. Il y a très peu de bus intercités. Le train ne permet pas d'aller à son travail et d'en revenir de façon aisée. Tout le monde a une voiture et à 100€ le plein, oui, pour certaines familles, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus compliqué. On a la chance d'avoir une échéance électorale qui permet de faire effet de catharsis et éventuellement de reporter la colère. Mais il est évident qu'on ne s'en sortira pas avec un chèque énergie qui est destiné aux revenus les plus bas, qui est en fait une forme de charité, mais qui ne touche absolument pas les classes moyennes, qui elles sont en train d'être impactées de plein fouet par l'explosion des prix de l'énergie. Et on oublie autre chose, ce sont les industries, justement les petits industriels, qui aussi sont extrêmement impactés, au point que parfois, quand votre facture d'énergie triple, bah c'est tous vos bénéfices qui s'envolent. Donc il y a les deux effets qui sont en train de se conjuguer. Il faudrait vraiment que le gouvernement interviennent très vite.
Jean-Claude Dacier, le retour des gilets jaunes, c'est une perspective.
Moi, je n'y crois pas du tout.
Pourquoi?
Parce que l'histoire des gilets jaunes que nous avons tous soutenus lors des premières semaines, des premiers mois, a complètement changé de nature ensuite avec les phénomènes de violence extrême qu'on a connus sur les Champs-Élysées. Je crois que les gilets jaunes ont eu leur période. Ils n'ont pas été capables de s'organiser et de dialoguer à travers un ou deux de leurs responsables. Je ne crois plus beaucoup. Que le mécontentement néanmoins soit là quand on s'arrête à la station-service, ça paraît évident. Tous les prix de l'énergie augmentent. Je citais le fuel dont beaucoup de Français se servent pour se chauffer. C'est 1 000€ les 1 000 litres. Et en général, pour un hiver, vous êtes plutôt sur un plein ou un plein et demi. Ça dépend évidemment des familles. Mais en gros, ça fait quand même une très grosse dépense. Et effectivement, l'essence est à 1,70 ou 1,75 pour le 98, 1,64, 1,65 pour le 95. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, quelle solution? Moi, je n'en ai pas, sauf de constater qu'au fond, le pétrole n'a jamais été cher. C'est la taxe et c'est la fiscalité française qui le rend hors de prix.
Et s'il est vrai que... Et le problème de production en amont aussi.
Oui, mais ça, cher ami...
Volume de production.
Alors là, on peut ouvrir ce débat. Qu'est-ce que font les pays pétroliers? Pourquoi la Russie freine-t-elle ses livraisons de gaz? Pourquoi les Américains ont maintenant un pétrole et un gaz de schiste de moins en moins rentables? On peut l'ouvrir. C'est vrai que c'est au départ, à la production, que les prix augmentent. Si le président, mais il y a aussi un problème de nécessité pour l'État d'essayer, non pas d'équilibrer ses comptes, on en est tellement loin, mais au moins de garder quand même un minimum de recettes. C'est vrai qu'il pourrait accepter, ça n'a jamais été fait, je crois, ou alors il y a très longtemps, de baisser les taxes. Il y a 60% de taxes sur un litre d'essence. 60%, le pétrole n'est pas cher. Mais évidemment qu'il y a une marge. Oui, mais... La marge est une chose, les déficits de l'État, c'est plus une marge, c'est un abysse. Donc évidemment, c'est compliqué. Et c'est compliqué, vous le disiez, vous avez raison, Madame Pina, pour les grands industriels et les petits, tous ceux qui utilisent ou pour chauffer les établissements ou pour fabriquer leurs produits, c'est quelque chose qui va vite poser un problème et qui va déclencher un phénomène d'inflation, au moins dans ce secteur, évident. On commence à payer, je ne voudrais pas être polémiste, mais on commence à payer la transition écologique. Et ce n'est que le début.
Mais surtout que la TVA et la TIPP, c'est ça les revenus de l'État, ce n'est pas l'impôt sur le revenu.
Eh oui, bien sûr, mais vous avez
raison. Maître Golnadel, le retour des Gilets jaunes, vous y croyez ou pas?
J'en sais rien. Vous savez, alors ce genre d'explosion sociale, personne ne peut les prévoir, personne ne peut les prévoir à l'avance, hein, ce genre de choses. En tout état de cause. Bon, ceux qui se plaignent, là, c'est la France des fumeurs de clopes et qui marche au fioul, comme disait, avec mépris, je ne sais plus quel...
Benjamin Griveaux,
je voulais... vous n'avez pas mon aménité. Donc, c'est un peu ceux-là qui se plaignent, qui prennent évidemment en plein visage cette augmentation, voilà. Et comme le dit très bien Jean-Claude, bon, c'est aussi une question de politique énergétique, hein. On pensait que la voiture c'était fini, voilà. On a supprimé, parce que là maintenant on découvre, vous parliez des mini réacteurs nucléaires, mais on découvre maintenant les bienfaits du nucléaire et les méfaits du charbon allemand. Mais c'eût été peut-être un peu plus avisé que de ne pas stopper ce qui était le fleuron de l'industrie française. Il n'y en a pas tellement. Hein? On devrait les bichonner. Cela, non, je ne sais pas, par une sorte de fuite en avant idéologique, on a sacrifié. Alors, je ne sais pas très bien ce que fait en même temps notre président de la République. À la fois, il avait décidé de terminer le nucléaire, maintenant il le reprend.
Il avait fermé Fessenheim, mais là, il avait des mini-réacteurs.
Oui, mais enfin, on avait décidé quand même de supprimer.
Non, de ramener la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique en 2035.
Je vois que vous êtes plus savante.
Je connais mes dossiers.
Je vois que vous êtes plus savante. Ça fait partie des deux ou trois dossiers que je maîtrise assez imparfaitement.
Je vois ça.
Voilà. Donc, mais bon. Tout dépend comment va tourner le prix du pétrole, mais...
C'est sûr, c'est que la circulation est moindre, il me semble. Moi, j'ai un peu circulé ce week-end, il me semble, j'ai peut-être
rêvé... À cause du prix de
l'essence, vous voyez ? Il y avait beaucoup moins de circulation, de circulation sur les routes.
Ce que dit aussi M. Dacier, avec la pertinence économique qu'il caractérise, c'est que compte tenu des finances abyssales de la France, on peut aussi choisir la fuite en avant. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. La fuite en avant, jusqu'à mai, c'est mais les élections...
Non, avril, c'est avril. Mois d'avril.
Merci. Jusqu'à avril, on va continuer de fuir. Et puis après, il sera trop tard de toute manière.
David Lebars, évidemment, on se rappelle qu'en 2018, le mouvement des Gilets jaunes avait démarré sur une hausse comme ça des prix des carburants et les policiers avaient payé le prix cher aussi au moment de ces manifestations.
Oui, alors moi, j'y connais rien du tout sur le domaine énergétique. Sur le domaine sécuritaire, je m'y connais un petit peu.
Il arrive que la modestie confine à l'orgueil. Faites attention.
C'est un dossier explosif, en tout cas.
Faites attention.
Non, mais c'est surtout un mauvais souvenir. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est le mouvement des Gilets jaunes, j'en ai un souvenir précis. Je dirais même qu'il y a eu trois phases. Il y a eu la phase de montée, qui est allée assez vite. On est passé des ronds-points à des manifs et des manifs à la prise de secteurs sur la capitale et dans d'autres villes. Donc il y a eu la phase, on va dire, bon enfant au départ, mais qui n'était pas si facilement gérable que ça. Hein. Le bon enfant, ça dépendait des endroits. Moi, j'ai des collègues qui ont été dans des grosses difficultés avec des gens très remontés, très agressifs, parce que on touchait à leur capacité de se déplacer. Hein. On était sur des sujets d'essence, si je me souviens bien, de réduction de la vitesse aussi, hein, sur les routes.
80 km/h.
Voilà. Et tout ça, c'est vrai que quand on connaît les gens dans les campagnes, ce besoin de circuler, et même la vitesse des trajets était un sujet qui est bon. Après, il y a eu la phase de violence et de contestation avec le point d'orgue au 1er décembre, avec ce samedi que personne n'oubliera, ceux qui ont suivi. Et puis ensuite, il y a la phase 3 qui est le très mauvais souvenir pour les forces de l'ordre. On a eu cette polémique qui a duré très longtemps et dans laquelle on est encore.
Oui, sur l'utilisation
violence
de la force.
Violence policière, l'utilisation de la force, etc. Donc, moi, je ne ferai pas de pronostic parce que c'est très dangereux d'en faire. Et aujourd'hui, le paysage sociale de contestation a explosé. Ce sera un autre débat. Il faut être prudent. Il y a des services de renseignement qui travaillent bien, mais je ne souhaiterais pas qu'on ait en tout cas la réémergence sous la même forme de mouvements gilets jaunes. Et c'est évidemment pas les gilets jaunes en eux-mêmes qui ont fait dégénérer la contestation. C'est beaucoup de gens qui s'y sont greffés. Mais aujourd'hui, les mauvaises habitudes sont prises et la violence dans les manifestations, c'est devenu quelque chose de constant. En tout cas, quand il y a suffisamment de manifestants pour permettre à ceux qui veulent tout casser de profiter de manifestants honnêtes pour se servir d'eux comme bouclier.
C'est-à-dire que de nouvelles manifestations ultra-violentes seraient évidemment très compliquées à gérer pour vous, policiers.
Très compliquées parce que très fatigant, très chronophage. Évidemment, avec toujours ce débat qui est très compliqué sur la nécessité et l'usage de la force. On reviendra forcément sur ces thématiques-là. Comme disait l'ancien directeur général de la police, le maintien de l'ordre, ça fait jamais de belles images. L'usage de la force, ça n'est jamais agréable à voir, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Donc de toute façon, il ne faut pas souhaiter qu'on ait des mouvements sociaux qui dégénèrent. Ça, c'est une certitude.
Céline Pina.
Malheureusement, je pense que c'est aussi lié à un décalage extrêmement fort, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez tout un discours autour des transports en commun par des gens qui vivent à Paris dans quelques arrondissements et qui ne se rendent pas compte que ça, c'est pas la vie de la majorité des Français. Donc ce décalage entre...
Je rappelle que 35% des Parisiens ont une voiture, 85% des gens en région ont une voiture.
Donc il y a un décalage qui est monstrueux et du coup, vous avez des élites qui tiennent un discours qui est un discours idéologique, dogmatique, des gens qui, eux, affrontent la réalité. Et avant, on savait, au nom de l'intérêt du pays, faire primer, en fait, l'intérêt des gens qu'on défendait, l'intérêt du pays, et ne pas mettre en avant de dogmes moraux. Aujourd'hui, au nom des dogmes moraux, on est prêt à envoyer dans le mur toute une partie de sa population. Et sur la tension qu'il y a sur les prix de l'énergie, aujourd'hui, on est aussi un peu victime de choix délirants qui ont été faits et qui n'appartiennent pas qu'à Emmanuel Macron. Non. Même si, malheureusement, dans ce qu'il a fait sur Alstom, il y a eu aussi une vraie façon d'abîmer des fleurons de notre technologie.
C'est-à-dire On
a vendu à General Electric tout ce qui était turbines qui alimentaient notamment les centrales nucléaires, mais aussi les sous-marins à propulsion nucléaire, alors qu'on maîtrisait la technique, qu'on était les meilleurs, que les gens venaient nous les acheter. Et on ne l'a pas fait pour servir la France, on l'a fait pour servir des intérêts privés. Là, on est quand même vraiment à la limite de ce qui est acceptable en politique.
Allez, un dernier mot, Jean-Claude.
Mais General Electric veut maintenant, semble-t-il, nous revendre une partie, mais j'ai oublié laquelle, de ce que nous lui avons laissé acheter il y a maintenant quelques années.
Peut-être
c'est pas un grand moment d'histoire industrielle française, je suis d'accord avec vous.
Peut-être est-ce la façon qu'ont trouvé les Américains de se réconcilier avec la France après leur avoir mis une humiliation totale au moment de la vente des sous-marins australiens, auquel cas je pense que nous devrions récupérer et être heureux qu'on nous fasse cette grâce, mais je crains que ce ne soit pas cela qu'on nous redonne.
Maître Bonnadel ?
La triste ironie, c'est que Marine Le Pen, lors du débat électoral avec Emmanuel Macron, il y a bientôt 5 ans, avait sorti ce dossier Alstom, lui avait reproché, mais ça s'était un peu retourné contre elle lors du débat.
Mais personne n'avait rebondi, c'est vrai, oui. Alors que pour le coup, c'était une accusation tout à fait entendable.
Et voilà.
Est-ce que le gouvernement Jean-Claude Dacier a intérêt à réagir vite sur cette question des carburants qui, évidemment, s'ajoute à celle du prix du gaz et qui va s'ajouter à celle du prix de l'électricité, puisqu'on nous annonce une hausse pour les prochains mois?
Je pense que la réponse est oui. Je pense que, encore une fois, c'est le plan qui a été vendu, bien annoncé, bien vendu par le président de la République aujourd'hui, mais il y a l'urgence, vous avez raison. Il y a le plein qu'il faut faire 2 fois ou 3 fois par mois. Il y a la cuve à fuel qu'il va falloir remplir. Tout ça préoccupe beaucoup les Français. Et donc, je pense que le chèque énergie qui est passé à 200 euros, c'est ça?
Mais il touche une fraction très minime.
Oui, mais pour les plus précaires et ceux qui en ont le plus besoin, et ça je trouve que c'est pas mal parce que souvent on a pris l'habitude de saupoudrer de l'argent public et même d'en donner à ceux qui n'en avaient pas forcément besoin. Qu'on fasse un gros effort à ceux et pour ceux qui en ont vraiment besoin, ça, ce serait une grande politique sociale. Ce n'est pas les habitudes du pays.
Mais j'allais dire, après, le plan annoncé par Emmanuel Macron, ça fait un peu un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Là, on a une promesse magnifique. La réalité, c'est quand même une crise violente.
On en parle plus tard.
On fait d'abord une petite pause. On se retrouve dans un instant avec le commissaire Lebars, Céline Pina, Maître Golnadel et Jean-Claude Dacier. On évoquera les violences contre les forces de l'ordre. 2 gendarmes ont été agressés tout près de Grenoble. Des pompiers aussi ont été des policiers visés par des tirs de mortier à Rennes. La liste des violences contre les forces de l'ordre ne cesse de s'allonger. A tout de suite dans Punchline.